Ardigan. Ardigan présente Le Chant de l'Épée. Chronique saxonne, tome 4. De Bernard Cornwell. Traduit de l'anglais par Pascal Loubet. Lu par Marc Duquenoy. Prologue. Ténèbres de l'hiver. Nuit de gel, sans lune. Alors que nous flottions sur la Thames, je voyais au-delà de la haute proue le reflet des étoiles dans l'eau luisante. Le fleuve, nourri par la fonte des neiges, était en crue. Les cours d'eau asséchés durant l'été débordaient dans les terres crayeuses du Wessex et le long des innombrables collines avant de remplir la rivière en bouillonnant et de finir dans la mer. Notre navire, qui n'avait pas de nom, était attaché par un bout de cuir, proue en amont, près de la rive côté Wessex. Au nord, de l'autre côté, s'étendait la Mercy. Les branches dépouillées de trois saules nous dissimulaient. Nous étions 38 dans ce navire sans nom, un vaisseau de commerce qui croisait sur le haut cours de la Thames. Son capitaine, Rala, était à côté de moi, la main sur la barre. Je le voyais à peine dans l'obscurité, mais je savais qu'il portait une cotte de cuir et une épée. Tous les autres portaient cuir et maille et étaient armés de pied en cap. Car ce soir, nous allions tuer. Accroupi à mes pieds, Citric, mon serviteur, aiguisait la lame de sa courte épée.
« Elle dit qu'elle m'aime, » marmonna-t-il.
« Bien sûr qu'elle le dit, » répondis-je.
« Et je dois avoir 19 ans désormais, Seigneur, »
reprit-il d'un ton enjoué.
« Peut-être 20. 18 plutôt. J'aurais pu me marier depuis 4 ans, Seigneur. »
Nous chuchotions. La nuit était remplie de murmures. Celui des vaguelettes et des branches nues, bruissant dans le vent, le cri éperdu d'une renarde en écho au ululement d'une chouette. Le bateau craquait, et la pierre de Citric raclait l'acier. Un bouclier heurta le banc de nage. Je n'osais parler plus fort, malgré tous ces bruits, car le vaisseau ennemi était en amont de nous et les hommes qui en avaient débarqué devaient avoir laissé des sentinelles à bord. Elle nous avait peut-être vus alors que nous glissions sur la rive de la Mercy, mais à présent, elle devait nous croire partis depuis longtemps vers Lunden.
« Mais pourquoi épouser une putain ?»
demandai-je à Citric.
« Elle... Ilswit est vieille,
coupai-je.
30 ans peut-être, et corrompue. Il suffit qu'elle voie un homme pour écarter les cuisses. Si tu rassemblais tous ceux qui ont troussé cette catin, tu aurais une armée suffisante pour conquérir la Bretagne entière. Tu en ferais partir à là ?
Demandai-je au capitaine en l'entendant ricaner.
Et plutôt 20 fois qu'une, seigneur,
répondit-il.
Elle m'aime,
s'obstina Citric.
« Elle aime ton argent, » dis-je. « Et d'ailleurs, pourquoi enfiler une épée neuve dans un vieux fourreau ?»
Ce que les hommes se disent avant les batailles est étrange. Ils parlent de tout, sauf de ce qui les attend. Un jour que je me trouvais dans le mur de bouclier face à l'ennemi noir de menaces, dans les éclairs des lames, j'ai entendu deux de mes hommes se quereller à propos de la taverne qui brassait la meilleure halle. La peur plane dans l'air comme un nuage, et nous faisons comme s'il n'en était rien.
Cherche une épouse jeune et épanouie,
lui conseillai-je.
La fille du potier est bonne à marier. Elle doit avoir 13 ans.
Elle est sotte,
protesta-t-il.
Mais qui es-tu, toi? Je te donne de l'argent et tu le déverses dans le premier trou venu. La dernière fois que je l'ai vue, elle portait un bracelet que je t'avais donné.
Il renifla et ne répondit pas. Son père était le Dan Kiartan, le cruel, qu'il avait eu d'une de ses esclaves saxonnes. Pourtant, Citric était un brave garçon, même s'il avait passé cet âge. C'était un homme qui avait combattu dans le mur de bouclier, qui avait tué et qui tuerait encore cette nuit.
« Je te trouverai une épouse, »
lui promis-je. C'est alors que j'entendis les cris. Ils étaient faibles car ils venaient de loin vers le sud. Mais c'était ceux de femmes et d'hommes qui mouraient.